Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, gaz lacrymo d'un côté, barrage et pneus en flammes de l'autre. L'évacuation de Notre-Dame-des-Landes a commencé cette nuit avec déjà quelques frictions et le gouvernement qui prévient ce matin. Attention, l'opération pourrait bien durer plusieurs jours. Béatrice Duguet sur place dans un instant. L'autre titre ce matin, c'est la confusion en Syrie. Le pays a été touché par des frappes aériennes, 14 morts sur une base militaire du régime. Mais les États-Unis démentent en être à l'origine, alors que Donald Trump a promis de faire payer le régime après une probable attaque chimique avant-hier contre des civils. Une télé pour faire basculer l'opinion, alors que la grève à la SNCF entre aujourd'hui dans sa quatrième journée. C'est au 13h de TF1 qu'Emmanuel Macron s'exprimera jeudi dans un décor inhabituel, une école primaire d'un village de l'Orne. Quelle suite pour la grève sur les rails? Les syndicats vont-ils rester unis? Vous posez la question, Nicolas, à votre invité à 8h20.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dans le grand entretien jusqu'à 8h40, intervenez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un lycée de Seine-Saint-Denis occupé par des parents et des enseignants après une série d'agressions dont l'une au marteau. Le procès de trois jeunes radicalisés. Ils projetaient d'attaquer le fort militaire de Cap-Béart près de Perpignan en 2015. Et puis Jane Birkin et Serge Gainsbourg, version intime, expo photo à découvrir en ce moment à Calais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y attendait. L'évacuation des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a donc débuté cette nuit, 3 mois après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport. Bonjour Béatrice Duguet.
Bonjour.
Vous êtes sur place au milieu du chant des oiseaux qu'on entend derrière vous. Dans quel climat se déroule pour l'instant cette évacuation?
Alors, c'est assez trompeur, hein, le chant des oiseaux. Opposition nourrie, dit le ministère de l'Intérieur. Figurez-vous que le champ devant moi est littéralement noyé de gaz lacrymogène. D'ailleurs, ça pique la gorge. La gendarme mobile au mégaphone invite en hurlant les zadistes à dégager l'endroit. Il y a manifestement une cabane à évacuer aux abords de la route des Chicanes, tout près de la ferme aux Fosses Noires où je me trouve. Les affrontements sont sporadiques en présence de jeunes gens qui se relaient, comme ce Camille venu de Rennes.
Non, on est en présent déjà. On est en présent, et puis bon, en filant un coup de main à droite à gauche sur ce qui est possible de faire. Voilà. Au-delà de reculer le moins possible, c'est de les forcer un peu à avancer aussi. Enfin, à se sortir de la route où ils sont tous. Enfin, voilà, c'est un peu ce truc-là, mais c'est quoi. Ou encore, c'est même pas de l'affrontement, là. Ils sont juste dans un truc fumigène, machin. Là, c'est pas... C'est rien de très offensif encore.
Des jeunes pour se confronter aux gendarmes, des plus vieux aussi, ils étaient là tout à l'heure dès 4h du matin pour aider et soutenir des personnes retraitées venues d'un petit peu toute l'agglomération nantaise. Ce qui n'était pas visible cette nuit au début de l'intervention l'est ce matin, il y a des voitures en travers, des poteaux électriques en ciment, quelques barricades avec des pneus. Voilà, c'est reparti sur la ZAD ici.
Béatrice, avant de vous laisser, allez-vous protéger des gaz lacrymo? Un mot, il ne s'agit pas de vider la ZAD hein, pour le gouvernement.
Eh bien, l'intervention se déroule donc pour l'instant sur cette fameuse route des Chicanes dont le département réclame la circulation pleine et entière. Elle se déroule aussi manifestement sur le côté est de la ZAD, là où il y a des cabanes, mais peut-être qui ne sont plus toutes habitées. Deux tractopelles de gendarmes sont prêtes pour enlever les cabanes détruites. Les huissiers aussi sont attendus ici ce matin pour notifier les avis d'expulsion. Alors on se demande un tout petit peu à qui vont être notifiés ces avis d'expulsion. Et puis vu le climat et le climat de gaz lacrymogène aussi, on se demande si on va trouver les habitants de ces cabanes-là pour leur notifier les expulsions, Marc.
Merci Béatrice Duguet en direct avec Fabien Gosset. Un gendarme a été blessé à l'œil, apprend-on ce matin, et hospitalisé après un tir de feu d'artifice. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue. Enfin, deux manifestations sont prévues à Rennes et à Nantes, en fin d'après-midi à 18h, en soutien aux zadistes.
Il est 8h05, l'autre grand titre, Marc, ce sont ces frappes cette nuit en Syrie.
D'après la télévision d'État syrienne, des missiles se sont abattus sur une base aérienne de l'armée de Bachar el-Assad. Il y aurait 14 morts. Évidemment, tous les regards se sont tournés vers Washington, qui ce week-end encore promettait de faire payer le prix fort au régime syrien, coupable d'une probable attaque chimique. Mais pour ajouter encore un peu à la confusion, Marco Voltaire, les États-Unis ont démenti cette nuit être à l'origine de ces frappes.
Les États-Unis ne mènent pas de frappes aériennes en ce moment, assure-t-on au Pentagone. De son côté, la Maison-Blanche a publié un compte-rendu d'un appel téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État veulent une réponse forte et commune. Une réponse forte, c'est déjà ce qu'avait promis le président américain dans un tweet dimanche matin dans lequel il qualifie Bachar al-Assad d'animal. Dans ce même message, il s'en prend à la Russie, alliée de Damas et à Vladimir Poutine, en le citant directement, alors que Donald Trump se garde généralement de critiquer ouvertement son homologue russe. À voir aussi quelle sera la tenue l'honneur des échanges à l'ONU, où le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence aujourd'hui. Pour rappel, l'an dernier, moins de 3 jours à peine s'étaient écoulés entre l'attaque au gaz sarin Khan Cheikhoun, qui avait fait plus de 80 morts, et la riposte américaine, une 60aine de missiles Tomahawk, qui allait s'abattre sur une base aérienne du régime syrien. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
Alors, qui a frappé la Syrie cette nuit? Eh bien, ce n'est pas la France, dit à l'instant un porte-parole du ministère de la Défense. L'armée française n'a pas bombardé la base du régime. Peut-être Israël. En tout cas, Israël avait déjà attaqué cette base militaire syrienne en février lors d'un raid aérien. Ce soir, c'est donc l'ONU qui va se pencher sur ce qui était peut-être une attaque chimique avant-hier. D'après les casques blancs, ainsi qu'une ONG présente en Syrie, c'est bien du chlore qui a été utilisé sur des habitants de la ville de Douma, l'une des dernières poches de résistance. Le bilan serait d'au moins 40 morts et 500 blessés. Bernard Guetta y reviendra juste après ce journal.
Il est 8h07, il était resté en retrait jusqu'à présent. Emmanuel Macron la descend dans l'arène.
Alors que la grève s'installe à la SNCF, on va y revenir dans quelques instants, et alors que les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi sur l'avenir du ferroviaire, c'est sur TF1 jeudi et à 13h, horaire assez inhabituel, que le président parlera aux Français dans un lieu qui l'est aussi inhabituel. Ce sera en direct d'une école primaire d'un village de l'Orne, Berduit, près d'Alençon. TF1 précise que c'est Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du JT, qui a choisi le lieu. Quant au chef de l'État, Yael Gauze, eh bien, il espère marquer des points dans l'opinion.
Le bout du tunnel est encore loin, mais certains cadres de la majorité évoquent déjà un renversement de l'opinion. La semaine dernière, l'affaire était mal engagée. Écart de langage, gréviculture, les cheminots stigmatisés et qui se braquent en retour. Prière de maîtriser la communication, la référence désormais, c'est cette tribune signée Nicolas Hulot dans le JDD hier qui déclare sa flamme au service public du rail. Du côté de Matignon, on mise aussi beaucoup sur le débat parlementaire qui commence aujourd'hui à l'Assemblée pour montrer qu'il y a encore du grain à moudre, des amendements pour enrichir le texte, 300 ont été déposés. Et au ministère des Transports, on attend maintenant les contributions que pourraient faire les syndicats dits réformistes. Quant au paysage politique, Matignon pense qu'il va se clarifier, avec des oppositions qui devront faire face à leurs propres contradictions. Des sondages favorables, une majorité qui serre les rangs à l'Assemblée, avant l'entrée en scène d'Emmanuel Macron jeudi sur TF1. Inquiet en début de semaine dernière, plusieurs hauts responsables de la majorité font le pari que la guerre d'usure va tourner à l'avantage du gouvernement.
Côté trafic maintenant à la SNCF, ça s'arrange très légèrement par rapport à la semaine dernière, mais seul un tiers des TER et des transiliens seront en circulation ce lundi pour ce 4e jour de grève. Un TGV sur 5 et seulement un intercité sur 6. La grève se mettra en mode pause demain matin avant de reprendre jeudi soir. Pas de pause en revanche dans le mouvement des étudiants. Les cours sont perturbés sur une douzaine de campus et suspendus dans 3 universités. À Lille, les grévistes ont été rejoints par un collectif d'enseignants qui demande l'annulation des examens. À Paris, 5 étudiants et un lycéen comparaîtront ce matin après les échauffourées de vendredi soir devant la fac de Tolbiac. Et puis à Nantes, où le campus du Tertre est toujours bloqué, le doyen de la faculté, qui a tenté en vain de faire reprendre les cours, dénonce insultes, pressions et menaces. Didier Delorme avec Manon Vautier-Cholet de France Bleu Loire-Océan.
J'ai essayé pendant 2 semaines d'ouvrir, de communiquer aux étudiants la nécessité de venir. J'ai débloqué moi-même les portes. Après, il y a eu des menaces, des pressions, des tags, donc on a arrêté, d'autant plus qu'il y avait des pressions physiques sur les étudiants, donc on a arrêté. Moi j'ai eu des menaces précises physiques, des barres de fer sous le nez. Je parle pas de toutes les diffamations sur les tags. Hein. Didier t'as déconné, Didier mobilise-toi, Didier arrête, Didier machin truc, voilà. J'ai déposé des mains courantes, oui, 2 précisément. Là il y a une grosse pression, c'est vrai, et c'est très très désagréable. On peut pas faire, on peut pas s'imposer physiquement nous-mêmes, on peut pas mettre les étudiants en face les uns des autres pour les faire s'affronter. On ne peut pas appeler la police, on ne peut rien faire.
Et la Coordination Nationale Étudiante appelle toutes les universités désormais à rejoindre le mouvement dès demain.
Comment faire court quand les élèves ont la peur au ventre?
Un adolescent frappé à coups de marteau, des bandes rivales qui viennent régler leur compte jusque dans les couloirs. Depuis vendredi, élèves, parents et enseignants du lycée Utrio de Stain en Seine-Saint-Denis occupent l'établissement. Ils ont obtenu un renforcement des patrouilles autour du lycée, mais pour eux, c'est largement insuffisant. Et hier encore, c'est devant les grilles de l'établissement qu'ils sont venus manifester. Adrien Toffolet.
Ils étaient une bonne centaine devant le lycée décoré de banderoles, plus de moyens, plus de sécurité. Parmi eux, des élèves encore choqués des multiples agressions des derniers jours.
Beaucoup de peur quand on voit qu'il y a du sang dans les couloirs. C'est vrai qu'en allant d'une classe à l'autre, on est perturbé.
J'ai peur de venir en cours la plupart du temps. J'ai vraiment une boule au ventre quand je viens. Surtout qu'on voit personne pour nous mettre en sécurité devant le lycée.
Les équipes pédagogiques, les parents d'élèves et les élus locaux ont obtenu que les patrouilles de police soient renforcées aux horaires de début et de fin des cours. De l'avis de tous, c'est insuffisant. Sabrina Mafoufi est l'une des professeurs mobilisés.
On nous a promis la mise en place d'une cellule de veille, chose sur laquelle on est très très sceptique, puisque de toute façon, on sait que le commissariat de Stein n'a pas de moyens, n'a pas d'effectifs. Donc pour nous, le problème, il est de fond. Et ce qu'on nous propose, c'est un pansement sur une jambe de bois.
L'occupation de l'établissement par les parents d'élèves débutée vendredi continuera donc toute la semaine, comme l'explique Valérie, la maman d'une élève de terminale.
Les jours prochains, avec les parents, on vient de décider de continuer à occuper le lycée, puisqu'on avait des revendications bien plus grandes que celles que nous avons obtenues, pour que effectivement, à l'intérieur du lycée, les enfants aient l'équipe éducative nécessaire pour pouvoir continuer à travailler sereinement.
Et à quelques semaines du bac, tous espèrent un véritable engagement de l'État.
Reportage Adrien Taufolet. Il voulait déloger des gens du voyage qui s'étaient installés sur le parking d'une crèche. Le maire de Vissoux, dans l'Essonne, vient de passer la nuit en garde à vue. Il s'est présenté hier avec une arme de poing, un sabre japonais et un gilet pare-balles, le tout en état d'ébriété et en proférant des menaces. Un membre de la communauté des gens du voyage a lui aussi été placé en garde à vue car un fusil a été retrouvé dans sa voiture.
8h12, c'est un triomphe pour la bête noire de Bruxelles.
Son score ferait rêver n'importe quel dirigeant européen. Le premier ministre hongrois, l'ultra-conservateur Viktor Orban, s'est offert un plébiscite hier lors des législatives, frôlant les 50% des voix. L'homme qui se vante régulièrement de ne pas avoir accueilli le moindre réfugié dans son pays va donc rempiler pour un troisième mandat consécutif et il prévient déjà ses adversaires, il n'a pas l'intention de changer.
On a gagné. Chers amis, je peux vous dire ici ce soir que nous avons remporté une victoire historique. Et cette victoire nous offre la possibilité de continuer de nous défendre et de défendre la Hongrie. Notre patrie n'est pas encore là où nous voudrions qu'elle soit. Mais nous sommes sur la bonne voie, sur notre propre chemin, celui que nous avons choisi. Et nous irons jusqu'au bout, ensemble.
Voilà le Premier ministre hongrois Viktor Orban, grand vainqueur des élections dans son pays hier. Derrière lui, c'est le Jobbik, le parti d'extrême droite qui arrive deuxième avec un peu moins de 20% des voix.
Ils vivaient encore chez leurs parents à l'époque des faits, mais aujourd'hui, c'est une cour d'assises qui va les juger.
Trois hommes comparaissent à partir d'aujourd'hui à Paris soupçonnés d'avoir projeté un attentat en 2015 contre des militaires du fort de Cap-Béar dans les Pyrénées-Orientales. L'un des trois accusés était d'ailleurs un ancien militaire de cette base, Charlotte Piret.
C'est sur le forum du site jeuxvideo.com que les trois jeunes hommes font connaissance. Très vite, leur conversation porte sur l'islam radical et leur projet de départ en Syrie. En contact avec des recruteurs sur place, ils récupèrent même une carte détaillée de la frontière turco-syrienne. Mais l'un d'eux a été repéré par les services de renseignement qui le convoquent et, constatant ses désirs de djihad, le place sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire. Leur projet tombe à l'eau. Qu'importe, l'un de leurs contacts de l'État islamique leur en propose à nouveau un attentat en France et leur envoie cette fois le parfait manuel de fabrication d'explosifs. Reste la cible, toute trouvée, car le trio compte un ancien militaire réformé de l'armée quelques mois auparavant. Il a servi comme guetteur au sémaphore du Cap-Béar. C'est donc là qu'ils frapperont en empruntant la piste de terre à l'arrière, puis en escaladant le mur avec une échelle de pompier. À l'intérieur, il prévoit de s'en prendre aux militaires présents et de décapiter l'officier du site avant d'envoyer la vidéo de leur attaque à Daesh. Lors de leur perquisition au domicile familial de l'un d'eux, les enquêteurs trouveront d'ailleurs, en plus d'un testament, une caméra flambant neuve.
Charlotte Piret, les secours n'ont rien pu faire. Un coureur belge du Paris-Roubaix est mort cette nuit à l'hôpital de Lille, quelques heures après avoir été retrouvé inanimé sur le bord de la route après une centaine de kilomètres de course. Sans doute un arrêt cardio-respiratoire. Michael Goulertz, 23 ans, participait à son premier Paris-Roubaix. En Ligue 1, c'est toujours le chassé croisé pour le podium. Hier soir, c'est Lyon qui a repris la troisième place à Marseille. Les Lyonnais ont écrasé Metz 5-0 alors que l'OM était tenu en échec par Montpellier 0 partout. Il reste encore 6 journées de championnat de Ligue 1.
Ils ont formé l'un des plus beaux couples de la chanson française.
Elle, la petite anglaise à la voix fluette, lui, le fumeur de gitane. Une exposition photo nous plonge dans l'intimité de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Photo prise par le frère de Jane Birkin, Andrew, photographe et scénariste de son état, et qu'on peut découvrir agrémenté de vidéos et d'archives en ce moment à Calais. Isabelle Pasquier.
Il y a Jane, endormie et blottie comme une petite fille contre Serge. Gainsbourg qui lui semble comme perdu dans ses rêves. Entre 1964 et 79, avec une douce complicité, Andrew, le frère de Jane, a capté ces moments, ces instantanés de la vie surmédiatisée du couple Birkin-Gainsbourg. Des moments précieux où ils ne posent pas, où ils ne jouent pas à être des icônes. Jane Birkin est venue voir l'exposition et elle a regardé avec émotion ces photos qui ont le parfum de l'insouciance.
C'est un peu mélancolique quand même, mais bon. En même temps, je suis contente qu'il était là pour capturer ça. Et puis, il y a beaucoup de photos de Kate. Je suis contente quand elle était petite parce qu'Andrew l'a gardée pendant que moi, je faisais slogan. Toutes les photos d'elle, en fait, sont de Andrew. Les années 60, c'était quand même très insouciant. C'était très gay quand même. Très, très gay. Je me suis rendu compte que c'était un moment dans l'histoire que les autres nous enviaient d'avoir vécu. Mode, musique, cinéma.
L'étrange nostalgie d'une période que l'on n'a pas vécue. Et Jane aussi a réalisé un montage, celui du roman de sa vie en Super 8, sous le soleil et la mélancolie, exactement.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Alors moi je vais partir, mais je précise quand même, Nicolas, que l'exposition elle est à découvrir jusqu'au 4 novembre. C'est au Musée des Beaux-Arts de Calais.
Merci Marc Fauvel.